Matin, frères et sœurs, à ouvrir dans le livre de Josué au chapitre 3. Josué chapitre 3, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Il est dit ceci, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, soit environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de faire une seconde lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. À compter du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dans cette première lecture que nous avons lue, Josué chapitre 3, nous sommes à l'entrée de Canaan. Ça fait la deuxième fois que le peuple de Dieu se présente à Canaan. La première fois, c'était il y a 40 ans en arrière. Et ils n'ont pas pu y entrer en raison du doute qui s'est installé au milieu d'eux, et ils ont passé 40 ans dans le désert. À cet instant, dont nous venons de parcourir en quelques mots, quelques versets, ils sont à nouveau devant Canaan et il est dit ceci, qu'ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Et au verset 2, il dit, au bout de 3 jours, il ne devait rester qu'une nuit. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi, mais voilà. Il devait passer une nuit et traverser. Mais ils sont restés 3 jours. Que s'est-il passé pendant ces 3 jours pour qu'ils n'aient pas traversé le lendemain? La Bible ne nous dit pas. Mais je pense que l'Esprit nous interpelle quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que Le lendemain du jour où ils sont arrivés, ils n'ont pas traversé. Bon, néanmoins, ils vont le traverser quand même. Et mes frères et sœurs, c'est vers cela que j'attire notre attention à tous. Pour dire que peut-être que c'est la deuxième fois ou la énième fois que tu te présentes pour t'engager, mais tu ne l'as pas encore fait. C'est peut-être le moment. Je dirais même, c'est le moment. Ne remets pas à plus tard, parce que plus tard, ça risque d'être trop tard. Parce que quand on a basculé dans l'éternité, nous n'avons plus le choix. C'est maintenant que nous avons encore le choix. Et notre éternité dépend du choix que nous faisons maintenant. Mais ce n'est pas sur cela que ma prédication va se tenir. Je voudrais ce matin, les frères et sœurs, vous parler du chemin de Christ, le chemin à suivre. Et j'ai bien apprécié le dernier chant tout à l'heure. Je ne sais pas si vous comme moi, mais peut-être que j'ai été plus sensible parce que je prépare ma prédication sur cela, mais frères et sœurs, vous avez chanté et vous vous êtes engagés. Hein, à le suivre. Voilà, on est tous d'accord. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste une petite boutade pour nous interpeller que tout à l'heure, on a chanté qu'on s'engage à suivre Jésus. Parfois, il ne faut pas chanter à la légère des chants. Hein. Voilà. Il faut, au travers des chants, Dieu nous interpelle aussi. Voilà. Et le Seigneur ici va donner, au travers de Josué, les recommandations pour traverser le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Et dans ce pays vers lequel Dieu conduit son peuple, ce n'est pas un pays qui est vide. Pourtant, ce pays, Dieu l'a promis à Abraham, Isaac, Jacob et au peuple de Dieu. Et il leur dira, les peuples qui sont là, vous allez les chasser, les exterminer. Et ce territoire, Dieu en a défini les limites, où ça commence et jusqu'où ça va. Voilà. Et je dirais également, frères et sœurs, que pour nous aujourd'hui, il y a un territoire à conquérir. Et Jésus nous confie ce territoire. On va peut-être le lire dans Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, le verset, les derniers versets, 19 et 20, il va dire ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire faites de toutes les ethnies des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, on a un vaste territoire. L'ensemble du monde. Ce n'est pas uniquement Toulouse. L'ensemble du monde. Et l'ensemble du monde, ça concerne toutes les ethnies. Le mot « nation » ici, c'est ce qui a donné « ethnie ». Et frères et sœurs, ça je crois que c'est une mission qui est la plus importante pour l'Église. Parce qu'au travers de cela, nous continuons la mission de Christ. Le salut des hommes, sans exception, de race, de couleur, de langue, de situation sociale, etc. Dieu a une mission pour l'Église. Nous avons un territoire qui nous est échu. Mais ce territoire est occupé. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Oui. Dans le territoire de Canaan, il y a 7 peuples. Et c'est occupé. Et pourtant, c'est ce territoire que Dieu a promis à son peuple. Et pour rentrer dans ce territoire, eh bien, les frères et sœurs, il va nommer les peuples qui sont là. On n'aurait pas le temps ce matin de parler concrètement de ces peuples, mais il nous informe sur ce que nous pouvons ou sur ce que nous allons rencontrer. Je pense qu'il n'y a pas de différence. C'est vrai que ces peuples physiquement, de nos jours, n'existe peut-être plus. Mais l'esprit qui anime ces peuples est toujours là. Voilà pourquoi Dieu va dire à son peuple que c'est lui qui va chasser ces peuples devant eux. Ce territoire, c'est un territoire qui est occupé. Ceux qui ont vécu la guerre savent c'est quoi un territoire occupé. C'est une zone occupée, ce n'est pas une zone libre. On ne peut pas y circuler comme on veut, quand on veut. C'est un territoire qui est colonisé. C'est un territoire qui est asservi, où il y a la tyrannie, l'oppression. Bref, c'est un territoire ennemi. Mais c'est là que Dieu nous envoie. Et il va faire des promesses à Josué. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai moi-même avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lui donne ses promesses pour l'encourager. Il lui dira, médite la parole jour et nuit parce que ce sera la condition pour réussir. Dieu lui donne un territoire à conquérir, mais il l'encourage et il le fortifie pour lui dire, je serai avec toi. Le Seigneur nous donne également un territoire à conquérir, mais il nous fait exactement la même chose. Je suis avec vous tous les jours, nous l'avons lu tout à l'heure, jusqu'à la fin. Et il dira également dans l'évangile de Jean au chapitre 16, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes assurés au travers des promesses de Dieu de la victoire. Et pourtant, vous conviendrez comme moi, frères et sœurs, que dans nos vies, à chacun et à chacune, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je voudrais ce matin, les frères et sœurs, parler plus particulièrement de la recommandation que Dieu va faire à Josué. Il dira ceci, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Écoutez bien. L'arche vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Ça veut dire quoi en clair, frères et sœurs? Que le territoire sur lequel Dieu nous envoie, eh bien, il y a déjà un chemin qui est là. C'est Dieu qui nous conduit. Mais ce chemin nous est inconnu. Nous n'y sommes jamais passés. Alors, peut-être vous pouvez me dire, frère, ça fait 40 ans qu'on marche avec le Seigneur. On sait, on a vécu quelques expériences quand même. Ça, c'est vrai, frère et sœur. On a connu des hauts et des bas. On a pleuré. Il y a eu également des temps de joie, etc., etc. Donc, on connaît un petit rayon quand même en ce qui concerne ce chemin. Je suis d'accord avec vous, frères et sœurs. Mais le reste du chemin, tu ne sais pas. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Oui. Et c'est cela que nous devons armer notre esprit. Voyez? Parce que quand nous commençons à penser que nous savons, nous sommes en danger. Quand nous commençons à penser, j'ai de l'expérience, c'est que la chute n'est peut-être pas loin. Ou peut-être qu'on est déjà dans la pente descendante. Frères et sœurs, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, frères et sœurs. Et je pense que si je m'arrête ici, vous avez déjà compris l'essentiel. Mais je voudrais quand même un petit peu détailler, parce que bien parfois, je crois même souvent, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, c'est vrai que la parole, elle est spirituelle. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'elle soit pratique dans notre vie. C'est qu'on vive cette parole au jour le jour. Voilà. Et parfois, on la spiritualise tellement qu'elle est dans les sphères. Voyez? Mais ce que Dieu veut, c'est que cette parole soit une réalité dans notre vie de tous les jours. C'est la clé, frères et sœurs. Lorsque Dieu dit à Josué, « Médite la parole jour et nuit, c'est la clé de la réussite. » Mais parce que Josué va dans un terrain ennemi, miné, et que la seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de s'imprégner de la parole, de dépendre de la parole. Et ce que Dieu veut faire à son peuple, c'est le mener jusqu'au bout de ce qu'il a prévu, préparé comme projet. Et pour nous également, frères et sœurs, il en est de même. Et il est vrai, frères et sœurs, que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Comme Dieu a des projets pour l'ensemble de l'Église. Mais dans ce projet pour l'ensemble de l'Église, Dieu a un projet pour chacun. S'il y a une orientation générale en ce qui concerne l'Église, Dieu a préparé et prévu pour chacun d'entre nous, selon nos capacités, nos possibilités, au minimum un projet. Et il dit, c'est l'arche qui vous montrera le chemin à suivre. Ça veut dire quoi concrètement, frères et sœurs? Parce que l'arche, il y a quelques milliers d'années. Eux, ils ont suivi d'une manière physique. Mais nous, vous comprenez comme moi, les frères et sœurs, que c'est d'une manière spirituelle. Mais comment cela se traduit dans notre vie de tous les jours? C'est la condition pour réussir et remporter la victoire dans ce territoire. Et aujourd'hui, ce sera toujours la même chose, frères et sœurs. Nous avançons en terrain ennemi, hostile, rebelle à Dieu, qui rejette Dieu. Ça, vous le savez, frères et sœurs. Quand on commence à vouloir témoigner à quelqu'un, eh bien, bien souvent, il y en a qui disent, quand m'arrive des fois de distribuer les prospectus dans les rues de Hoche, il y en a qui l'acceptent gentiment, et puis il y en a d'autres qui disent, oh non, j'ai pas le temps, ou non, c'est pas pour moi ça. Il y en a un l'autre jour, il me dit, oui, je prends, je vais me donner à mon beau-père, parce que lui, il va souvent à la prière. Bon, il n'y a pas que les beaux-pères qui ont besoin. Mais, frères et sœurs, ce chemin, le Seigneur, il l'a fait avant nous. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oui, frères et sœurs. Dans ce chemin, frères et sœurs, le Seigneur est le seul à avoir survécu, à n'avoir point péché ou abandonné. C'est la Bible qui nous dit, les frères et sœurs. Il a triomphé de toutes les influences et de toutes les ruses de l'adversaire. Il n'en a pas manqué pendant toute sa vie. Soit le diable lui-même s'est manifesté, soit il a utilisé ses propres apôtres, soit il a utilisé les responsables religieux, etc., etc. Il n'a pas manqué. Mais la Bible nous dit qu'il a vécu sans péché. Et même la Bible nous dit que le Seigneur a triomphé de l'ennemi à la croix. Alléluia. Il l'a dépouillé de toute autorité, de toute puissance. Et il nous a donné, à vous et à moi, pouvoir et autorité sur l'ennemi en son nom. Amen. Les sept peuples de Canaan, nous parlent encore aujourd'hui des artifices, des ruses, de l'action de l'ennemi. Ce serait trop long pour pouvoir en parler ce matin, mais le peuple cananéen, je vous invite à lire le livre de la Genèse. Et vous verrez que toutes les fois où on a cité, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, qu'on a cité par exemple, je prends le parcours d'Abraham, il est parfois des versets où ils disent, les Cananéens habitaient le pays. Et dans la suite, il s'est passé quelque chose. On a l'impression quand on lit que, pourquoi il dit ça? En plein milieu d'une histoire, il y a cette petite phrase, les Cananéens habitaient le pays, et puis il continue l'histoire. Mais je crois que l'Esprit de Dieu est celui qui veille sur l'Écriture et qui a permis que ce soit mis pour nous interpeller, que ce qui s'est passé après, ça a été l'influence de ceux qui étaient là. Et c'est pour nous avertir, frères et sœurs. Le peuple cananéen nous parle des basses passions de l'humanité. Je ne vais pas faire les détails, frères et sœurs, vous avez bien compris ce que je dis. Et ça, ce n'est pas ce qui manque dans notre monde actuel. Regardez les publicités. Hein? Ça interpelle tout le monde. Mais ce sont aussi des invitations. Regardez la télé, les médias. Il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Hein? C'est sur les mauvaises nouvelles qu'ils gagnent de l'argent. Vous voyez? On dirait que les bonnes nouvelles, ça n'intéresse personne. Quand on prend les journaux, c'est pour savoir quelles sont les mauvaises nouvelles. Ça nous parle également, frères et sœurs, de l'action de l'ennemi. C'est fouler, marcher dessus. Cette technique-là, l'ennemi l'a utilisée contre Pierre et les apôtres. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Il nous parle du fait que il agit par la terreur. Frères et sœurs, regardons le monde d'aujourd'hui. Ne vit-on pas dans la peur, dans la terreur? Ce n'est pas ce qu'il y a il y a quelques 30 ou 40 ans en arrière. Aujourd'hui, avant de sortir de sa maison, on va essayer de regarder si on ne risque rien. Dès que la nuit tombe, on s'enferme chez soi, etc., etc. L'ennemi utilise la terreur. Et la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Quand le lion rugit, les animaux sauvages courent dans tous les sens, ils sont paniqués, ils sont terrifiés, et il y en a même qui courent dans la direction du lion. Il nous parle également du fait que empêcher la croissance, autant l'ennemi va nous empêcher de nous tourner vers Dieu, mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, il va nous empêcher de croître. Reste là. Bouge pas. T'es bien là. Pourquoi tu veux aller chercher ailleurs alors que là, c'est confortable, c'est la sécurité, etc., etc. C'est le propre de l'homme. Lorsqu'il nous faut franchir le pas pour aller sur un territoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on va réfléchir 4000 fois avant de dire oui ou notre réponse serait plutôt non. Et pourtant, le Seigneur il dit ici, c'est un chemin que tu ne connais pas, mais c'est celui-là que tu dois prendre. Quel est le chemin que Dieu veut pour toi, il veut pour moi? Peut-être que tu cherches la direction de Dieu. Ne choisis pas, s'il te plaît, la facilité. Parce que le chemin sur lequel Dieu veut te conduire, tu ne le connais pas, mais lui le connaît. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Christ a tracé une route nouvelle au travers de sa chair. Lorsque Christ est mort, le voile du temple est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et l'extérieur. On peut y entrer. Auparavant, il n'y a que le souverain sacrificateur une fois par an. Et aujourd'hui, nous pouvons tous y entrer. On va revenir là-dessus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas sous l'influence des ténèbres s'il me suit. Il ne subira pas l'influence des ténèbres. Mais il aura l'assurance et l'assistance de celui qui a vaincu à Golgotha. Frères et sœurs, Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a remporté une fois pour toutes la victoire sur le péché, sur Satan et son armée, sur le monde et ses désirs, sur les souffrances et les maladies. Il a triomphé. Et je voudrais, frères et sœurs, vous parler peut-être, je pense, si le temps me permet, de deux conditions pour suivre le Seigneur. Deux conditions. Ce n'est pas qu'il n'y a que ces deux-là. Mais je relève ces deux conditions dans ce texte que nous avons lu, Josué chapitre 3. Il va dire ici, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Voilà. Regardez. Oh, frères et sœurs, vous savez comme moi que nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par quoi? Amen. Oui. Nous marchons par la foi. Alors, par la foi en quoi? Je voudrais, frères et sœurs, certainement que c'est un rappel de toute façon. Au lieu de parler de la vue, je vais vous parler d'abord de porter l'arche. Parce que je pense que quand je vais vous parler de la vue après, vous allez peut-être mieux comprendre. Il dit, regardez lorsque les sacrificateurs vont porter l'arche. Quand vous les verrez porter l'arche, se lever et porter l'arche, c'est que c'est le moment de partir. Il faut le suivre. Et la Bible nous dit que, dans l'histoire du peuple hébreu, que le jour, le Seigneur conduisait son peuple par la nuée, et la nuit, par une colonne de feu. Or, nous n'avons pas ça aujourd'hui, et cependant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 16, il est dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix. Porter l'arche, à l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est porter la croix. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, porter la croix? Parce que bien souvent, on pense au chemin que le Seigneur a fait, la souffrance, etc. Mes frères et sœurs, sur ce chemin, le Seigneur nous a précédés. Et porter la croix, c'est faire exactement ce que le Seigneur il a fait. Ça veut dire, frères et sœurs, que lorsqu'on porte la croix, on va au sacrifice. On va à la mort. Lorsque le Seigneur il a porté la croix, il est allé au sacrifice, à la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous aujourd'hui? Parce que, vous voyez comme moi, parfois à l'époque de Pâques, dans le monde entier, il y en a même qui se crucifient. Ou on fait des chemins de croix, etc., etc. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Voyez? C'est de s'armer de l'esprit de la croix. Voyez? Il y en a qui disent, « Oh, je suis malade, c'est ma croix. » Pas du tout, ça, c'est pas vrai, ça. Voyez? C'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est s'engager à suivre le Christ, à renoncer à soi-même pour vivre le projet de Dieu pour soi. Voilà. Bien sûr, il y aura certainement de la souffrance. Mais ce n'est pas le fait d'être malade, d'être éprouvé, etc., etc., que c'est ça porter la croix. Non, Christ, il l'a déjà porté. Alors, frères et sœurs, je voudrais faire également, j'essaie d'aller plus loin, mais enfin, d'aller vite, mais également d'être assez explicite pour que lorsque nous sortons d'ici, nous comprenions. L'arche était portée par les sacrificateurs. Jésus, il a porté la croix, lui, il est souverain sacrificateur. Sacrificateur donc. Amen. Sommes-nous sacrificateurs? Oui, frères et sœurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je répète. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc, le sacrificateur, l'image qu'on pourrait en donner aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le pasteur. Ou les anciens, ou les prédicateurs, ou les responsables, ils sont également sacrificateurs. Mais chacun d'entre nous, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu es sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la parole de Dieu nous dit ceci, ce serait trop long, mais si vous voulez noter, Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Non, ce n'est pas le corps physique. Hein. Voilà. Et il dit, ne vous conformez plus au siècle présent. C'est ça, offrir son corps en sacrifice. C'est ne plus se conformer au siècle présent. Je ne veux plus vivre ce que vit le siècle présent, dans lequel j'ai vécu autrefois. C'est terminé, ça, cette vie-là. Maintenant, Seigneur, je veux porter cette croix où le péché ne m'atteint plus. Amen. Oui, frères et sœurs. Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11, vous le lirez, mais il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Nous y arrivons, frères et sœurs. « Être animés des sentiments qui sont en Christ. » Quels étaient ces sentiments? Ben, il n'a pas regardé à sa position de Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa gloire, de sa position. Il est venu parmi les hommes que nous sommes. Il a vécu en simple homme. Il n'avait ni beauté pour attirer le regard. Oui, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Mais c'est le même projet pour nous, frères et sœurs. Lorsque nous nous humilions et que nous acceptons de suivre le chemin que Dieu trace pour nous, nous sommes en train de vivre l'élévation. Nous sommes en train de grandir dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. Je pense que c'est un texte qu'on connaît, versets 7 à 12. Il est dit ceci, verset 7, je vais le lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 12. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Voilà, oui, on voit ici les influences. Mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et il dit ceci au verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Amen. Frères et sœurs, je pense que la parole, elle est bien claire. Que lorsque nous portons, c'est-à-dire nous nous armons, nous demandons au Seigneur de nous remplir de ces sentiments qui étaient en lui, qui l'ont conduit dans sa marche ici-bas jusqu'à la croix, nous sommes en train de faire en sorte que les réalités de la vie de Dieu soient en nous. Et bien sûr, frères et sœurs, lorsqu'on prend ce chemin, il y a toujours des séparations. Voyez? Il y a toujours des choix. On ne pourra pas tout emporter avec soi. Voyez? Les dames, quand vous partez en voyage, vous n'emportez pas toute la maison. Vous faites un choix. Les messieurs aussi, hein, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, frère. On a rempli la valise. Et puis, il y en a encore à côté. On pèse, on a dépassé le poids autorisé. Alors, il faut vider la valise et refaire encore. Deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce qu'on atteigne le poids autorisé. Et pendant tout ça, on s'est séparé de beaucoup de choses qui étaient au départ pour nous importants. Mais au final, ce n'est pas si important que ça. Alors, frères et sœurs, voilà, j'utilise cette petite image un petit peu pour détendre, mais c'est une réalité, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Oui. Il va falloir se séparer. Nous avons entendu un don spirituel ce matin. Il faut se séparer. Tu ne peux pas traverser le Jourdain avec ça. Ce n'est pas possible. Dans l'histoire du peuple hébreu, ce n'est pas tous qui ont traversé le Jourdain. Il y a deux tribus et demie qui sont restées de l'autre côté. Il n'y a que les hommes qui ont traversé, mais les femmes et les enfants et les troupeaux sont restés. Frères et sœurs, attention, ça c'est des techniques de l'ennemi, ça. Et si on lit l'histoire, on voit que ça va être le sujet de quelques divisions au milieu du peuple. Voyez? Lorsque le peuple, je fais une petite parenthèse, je pense à ça. Lorsque le peuple de Dieu, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour parler à Pharaon de laisser sortir le peuple, il a résisté, puis après il a dit, « Allez-vous les hommes, laissez les femmes et les enfants. » Et puis, il a dit, « Bon, ben allez, mais laissez les troupeaux. » Pour finalement laisser partir tout le monde. Mais c'est pour dire que c'est ça les techniques de l'ennemi. Nous faire croire qu'on est déjà libre, mais on est toujours gêné. Voyez? Ne laissez pas, frères et sœurs, une entrave dans votre vie. Parce que si maintenant vous ne la sentez pas, mais dans quelque temps vous allez sentir cette entrave. Elle va vous empêcher de rentrer dans l'éternité avec Dieu. L'ennemi, il vit dans l'éternité. Même si son éternité après sera loin de Dieu. Lui, s'il faut attendre 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il attendra. Mais il va maintenir ce petit fil-là, qui va grossir au fil des temps. Vous voyez? Et puis, il va devenir difficile. Non, ne laissez pas avantage à l'ennemi. S'il y a quelque chose que vous avez à régler, faites-le maintenant. Ne le renvoyez pas dans la ligne du corner, non, ou en touche. Non, la balle va revenir. Et peut-être plus forte qu'elle est sortie. Ne remettez pas à plus tard, parce que plus tard ne vous appartient pas. C'est maintenant le temps que Dieu nous donne de disposer. C'est maintenant de prendre la décision. S'il y a un problème que tu n'as pas réglé avec ton épouse depuis longtemps, fais-le maintenant. Ou ton mari, ou un membre de ta famille, ou un frère ou une sœur. Non, ne mets pas de la terre seulement. Voilà, parfois, on se justifie. Oui, mais non. Se justifier, c'est jeter un petit peu de terre. Mais le rejeton, il va traverser, même s'il met du temps, mais il va finir par ressortir. Et il faut le déraciner. Et le seul moyen de le déraciner, c'est à la croix. C'est là où Christ a déraciné le pouvoir du péché sur notre vie. Frères et sœurs, même si c'est l'autre qui t'a offensé, la Bible nous dit que si tu viens présenter ton offrande et que là devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande, va te réconcilier avec lui, puis viens. Parce que parfois aussi c'est ça. On dit, mais oui, mais c'est lui qui m'a fait du tort. Oui, mais souviens-toi de Christ. Il n'a pas attendu que tu viennes. Il a donné sa vie. Voilà. Donc, il peut te communiquer la force de vivre ça. C'est une victoire. Vous voyez? Ou bien, s'il y a quelque chose qui t'a servi, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Il va t'empêcher dans quelque temps de continuer à suivre. Vous voyez? Parce qu'arrive à un moment donné, la corde va arriver au bout et il va retenir. Vous voyez? C'est un peu comme la laisse des chiens. Là, on allonge, on raccourcit. Voilà, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais voilà. Le petit chiot, il a l'impression d'être libre, mais en réalité, il n'est pas libre. Vous voyez? Quand le maître, il veut, chut, tu viens ici, il raccourcit un petit peu et chut, il est juste là, autour des pieds, là. Vous voyez? Ben, l'ennemi nous fait sentir, fait ça aussi. Tu as l'impression d'être libre, mais en réalité, tu ne l'es pas. Et au moment donné, chut, il va rappeler ça. Coupe ce lien. Le seul moyen de couper ce lien, c'est d'aller à la croix. Et pas seulement d'aller demander pardon à Dieu, mais si tu as quelque chose à régler avec ton frère, ta sœur ou quelqu'un, fais-le. Porter la croix donc, frères et sœurs, c'est s'identifier donc à cette vie de Christ. Voilà, c'est vivre les réalités de la croix en résumé. Maintenant, vous avez compris, frères et sœurs, que, ben, je l'espère en tout cas, que je me suis fait comprendre, que si à l'époque, les sacrificateurs portaient l'arche, c'était réservé au clan des Lévites. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs, nous portons tous la croix. Et vous remarquerez, frères et sœurs, que quand on porte la même charge, il suffit que celui qui est devant, il tourne à gauche pour que tout le monde va à gauche. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Oui? Alors, frères et sœurs, si nous tous spirituellement, nous cherchons à vivre les réalités de la croix, frères et sœurs, nous n'aurons pas de difficulté à prendre la même direction. Voyez? Et maintenant, frères et sœurs, j'essaie de terminer par là. Regardez. Voilà. Frères et sœurs, lorsque vous regardez quelque part, même si on regarde dans la même direction, on ne voit pas tous la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui vont voir les détails, puis il y en a qui voient ce qui est plus gros. Puis il y en a qui regardent la couleur. Voilà. C'est suivant soit l'humeur du moment, l'aspiration ou le besoin, etc. On voit ce qui nous intéresse. Voilà. Et parfois, c'est même tellement gros, mais on ne le voit pas. Comment est-ce qu'on peut voir quelque chose qui est tellement gros là, devant tes yeux là? Hein? Pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Vous voyez, c'est une vérité de l'écriture, ça. Vous voyez, voilà. Non, le Seigneur ne demande pas de regarder si ton frère il porte la croix. Il te dit, porte la croix. Voilà. Le regard, donc, frères et sœurs, c'est quelque chose d'important, mais qui signifierait pour nous aujourd'hui l'importance d'avoir la révélation de Dieu, d'avoir la vision de Dieu. Parce que c'est cela qui nous conduit, frères et sœurs. La Bible nous dit d'ailleurs, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, il nous dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, le consommateur de notre foi, la récompense de notre foi. Qui, lui, en vue de la joie qui lui était réservée, il n'a pas regardé à la honte de la croix. Et ça, j'avoue que des fois, j'ai honte de témoigner. Mais je pense que c'est nous tous, frères et sœurs. On est bloqués, on ne sait pas. Et, voyez? Mais lui, il n'a pas regardé la honte de la croix, il a regardé à la joie qui lui était réservée. Et vous savez quelle était cette joie? La Bible nous dit que quand il y a un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. La joie de Dieu de voir des hommes et des femmes se tourner vers lui. Il n'a pas regardé à la souffrance comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais il a regardé à la joie de vous voir, vous et moi, frères et sœurs, dans son royaume. Et frères et sœurs, nous devons être animés également de cet esprit. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour savoir, pour connaître l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage pour les saints, l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà la prière de Paul pour les Éphésiens. Ce n'est pas pour des prédicateurs, hein. C'est pour tous les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans une épreuve des disciples, Matthieu chapitre 14, lorsqu'ils vont traverser la mer et qu'ils vont voir Jésus marcher sur l'eau, tout le monde voit la même chose mais ne réagit pas de la même manière. C'est ce qui nous arrive aussi, frères et sœurs, dans les épreuves. Qu'est-ce que tu vois dans l'épreuve? Eux, ils ont vu un fantôme. Ils ont vu Jésus, mais c'est un fantôme. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez? Et ils ont poussé des cris de frayeur. Mais Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et c'est cela que le Seigneur nous réserve, frères et sœurs. Que lorsque la situation se présente, il y a derrière cette situation apparemment négative une opportunité. Amen.